La beauté, puisque c'est le thème de ce 20e anniversaire du Printemps des Poètes, l'occasion est trop belle pour ne pas entamer cette émission avec elle, la beauté. Mais je vous propose un genre de manifeste en sa faveur, un manifeste que l'on doit au poète Jean-Pierre Siméon. Il écrivait l'année passée ces mots si forts, si beaux, si résistants, je crois. Je crois à une politique de la beauté. Elle serait devant les êtres et les choses, non pas seulement le mot juste, mais son frisson de feuillage sous l'averse, une loyauté du cœur, une délicatesse devant la mort, comme la précaution du chat devant la coupelle de lait. La beauté qu'il nous faut n'est pas une forme, une vie arrêtée dans son bond, ce geste froid qui nous éloigne de la crête et de l'abîme. Elle commence avec le silence, une pensée qui s'ouvre en nous comme une fleur en sa naissance. La beauté audacieuse n'a qu'une loi, elle exige de l'homme la probité des fleurs. Jean-Pierre Siméon, politique de la beauté.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui nous parle de beauté, de l'urgence aussi à la trouver. Elle est comédienne, metteur en scène, réalisatrice, mais aussi chanteuse et marraine cette année de la 20e édition du Printemps des Poètes qui débutera le 9 mars prochain pour un anniversaire. 20 ans, ce n'est pas rien. Bonjour Achille Abrakni.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors pour ouvrir cette émission, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous fassiez entendre les mots d'une poétesse qui s'appelle Marion Collet, grâce à un texte justement qui résonne également comme un manifeste pour la beauté.
Tout à fait. Je sauve l'intégralité du bleu, le soleil, ses reflets. Je recueille le temps précieux, j'empoche les souvenirs, je retourne le sablier, j'embrasse les cousins, je regarde le soleil se lever, je regarde encore le soleil se lever, au loin. Je sauve la beauté, le sensible. Je rejette l'époque, je rejette le noir, je rejette la mort. Je garde l'espoir comme cible. Et je sauve aussi au creux du roc, failles et fissures, bourrasques et tempêtes, tous les vents qui traversent le corps et la tête. Je sauve les couleurs dans l'angoisse, le désir dans l'impasse, la musique, la lumière, la présence du bonheur, cachée en profondeur. Je t'en fais serment. Je sauverai nos joies de vivre, des terreurs du présent. Fragile comme une bougie, tenace comme une guerrière, je resterai debout dans la nuit et je ferai son affaire à la mélancolie.
Rachida Abrakni, après vous avoir entendu nous lire un texte comme celui-ci, une question s'impose. Qu'est-ce que ça voudrait dire, sauver la beauté, aujourd'hui ?
Plein de choses. La beauté est en danger à tout point de vue. Et je trouve que rien de mieux que la poésie pour déjà pour la mettre en exergue, la beauté, la célébrer, et puis rappeler à quel point oui, la beauté est en danger.
Qu'est-ce qui la menace pour vous ?
Beaucoup de choses. On en parlera tout à l'heure par rapport à Adonis, qui en parle aussi très très bien, mais plein de poètes en ont parlé très très bien. Beaucoup de choses la menacent parce que la beauté, c'est la beauté à travers la poésie. En tout cas, la poésie célèbre la beauté de la nature, la beauté de nos différences, la beauté des différentes cultures. Et je pense que tout ça fait, voilà, inclut la beauté. Et je pense que oui, en effet, il y a quelque chose qui la menace aujourd'hui. On le voit bien chaque jour à travers l'actualité. On la malmène, la beauté.
Ça voudrait dire, Rachida Abrakni, que parler de beauté, c'est profondément politique aujourd'hui.
Bien sûr, je pense que c'est politique. Et puis, il faut aussi accepter de voir aussi de la beauté en toute chose. Tout est une histoire aussi de regard. Enfin, qu'est-ce qu'on décide de regarder ? Est-ce qu'on décide de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? Et je pense que la beauté, on a trop souvent tendance à la balayer, alors que on pourrait tout simplement, voilà, s'émerveiller de tout ce qu'on voit autour de nous.
Quel regard précisément est-ce que vous portez sur notre époque ? Dans quelle époque est-ce qu'on vit ?
Ah, complexe. Je porte un regard à la fois plein d'espoir et dans le même temps assez inquiète, voilà, par rapport à plein de choses, que ce soit la montée des populismes, que ce soit justement le fait de ne plus se regarder, de ne plus regarder l'autre, de ne plus se voir dans le regard de l'autre. Et alors je scie entre optimisme et défaitisme, et je crois que j'ai trouvé la juste balance. C'est Joseph Brodsky qui dit ça, qui dit « Le monde, malheureusement, ne peut plus être sauvé, mais un individu peut l'être ». Donc voilà, je partage totalement voilà cette idée.
Sur la façon de regarder, de se regarder, je crois vous avoir un jour entendu parler de la culture du selfie qui vous heurte assez profondément. Vous disiez notamment que prendre un selfie, c'était quelque part tourner le dos au monde.
Complètement, mais enfin de toute façon en règle générale, comme tout ce qui est en rapport avec la nouvelle technologie, je pense que étonnamment, enfin un ordinateur, même si aujourd'hui par Internet, ça permet de se rendre compte de plein de choses, voilà, qui peuvent nous échapper. Malheureusement, notre regard est focalisé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'autocentrisme, et le selfie en est la célébration ultime.
Tourner le dos au monde, ça serait tourner le dos à la beauté.
Bien sûr, bien sûr.
Mais alors comment faire, Rachida Brakni, dans un temps comme le nôtre, une époque de vitesse, de réseaux sociaux, d'images, pour se laisser atteindre par la beauté, pour faire en sorte, par exemple, qu'une parole poétique soit écoutée, entendue, reçue, et pas qu'on lui tourne le dos, justement.
Mais je pense que c'est aussi une responsabilité individuelle. Bien sûr qu'aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas tourner le dos à ce monde qui avance et qui va tellement vite qu'on a l'impression que c'est un train qui est en marche et qui est lancé à pleine vitesse et qu'on n'arrive plus à en maîtriser le cours. Je pense que c'est aussi de notre responsabilité, et moi-même la première, je ne m'exclus pas. Je me rends compte à quel point cet objet, ce téléphone, je suis très vite tentée moi aussi d'aller m'y réfugier et de voir ce qui s'y passe, et à un moment donné je crois véritablement que c'est à nous de nous autodiscipliner, de nous dire qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que j'en retiens. Et finalement, moi en tout cas, en ce qui me concerne, pas grand-chose, et de temps en temps me faire juste pause pour regarder en l'occurrence là par exemple vous en face de moi qui portez un pull très beau avec un cœur. Je me dis, ça tient à pas grand-chose, mais juste faire pause.
J'aime bien que vous disiez pause, parce que peut-être que la beauté a quelque chose à voir avec le temps qu'on prend, la résistance par le temps, Rachida Brakni, non ?
Oui, le temps est essentiel. C'est quelle importance on lui donne, comment on joue avec le temps, et il faut trouver cette balance en effet où encore une fois tout va trop vite, et puis prendre le temps de s'interroger. C'est comme une éloge aussi, bon, je pourrais aussi faire l'éloge de la paresse, parce que la paresse, ça va aussi avec la beauté. C'est tout d'un coup cet éloge de la paresse, c'est voilà, s'arrêter et prendre le temps de regarder ce qui m'environne, ce qui m'entoure, croiser des regards, et on en croise de moins en moins des regards.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, justement, dans la vie, dans le monde ?
Ben, plein de choses, justement, pour aller contre toutes ces informations qui me parviennent. Bah c'est ce moment où tout d'un coup je décide d'arrêter, et puis de me plonger, que ce soit dans la poésie. Là en ce moment, j'en lis beaucoup par rapport à ce printemps des poètes, et j'ai l'impression aussi de redécouvrir le monde et la beauté de la nature quand elle est célébrée par Hugo, par Baudelaire, mais aussi célébrée tout un tas de choses, et je crois, enfin j'espère moi aussi le faire quand je m'arrête ne serait-ce qu'à une terrasse de café et prendre le temps d'observer ces visages qui m'environnent.
Ne tournons pas le dos à la beauté. En revanche, celle à qui on tourne le dos dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, elle parvient quand même toujours à se faire entendre, sans doute par sa beauté du diable, c'est la culture. Et son actualité hurleuse, bruyante, pour ne pas dire saoulante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 13 février ?
Pendant des années et des années, j'ai fouillé chez tous les disquaires, je me suis fait envoyer des disques où je suis allé les acheter aux États-Unis. En fin de compte, ne me demandez pas d'où ça vient, c'est sorti, on l'a recopié, c'est réellement une rareté.
Coup de blues pour le jazz. Le producteur, journaliste et organisateur de festival André Francis s'est éteint hier. Il avait 93 ans, surnommé Monsieur Jazz. L'homme avait commencé sa carrière à l'ORTF avant de passer plus de 50 ans à transmettre sa passion, à faire vivre la musique sur les antennes de Radio France. La légende veut qu'en plus d'avoir créé les émissions Jazz sur scène ou Jazz vivant, André Francis ait organisé plus de 10 000 concerts entre 47 et 96. En 54, il avait aussi participé à la fondation de l'Académie du Jazz avec Cocteau. Respect André.
Ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que je suis aussi un petit peu de gauche par flemme d'être de droite.
Déclaration d'humour, c'est aujourd'hui que commence la 4e édition du FUP, le Festival de l'Humour de Paris, plus grande manifestation du genre en France. Jusqu'au 26 février, une quinzaine de soirées sont organisées sur les plus grandes scènes de la capitale et programme plus de 100 humoristes dès ce soir au Grand Rex. La soirée stand-up réunit notamment Thomas VDB, Guillermo Guise, mais aussi des artistes qui ne font pas de blagues sur France Inter, parce qu'il y en a, comme Roman Frécinet, Panayotis Pasco ou Ahmed Sparrow, chaud devant.
Alors que le reste du monde avance sur le chemin de la démocratie, la Turquie s'isolera avec une approche réactionnaire du gouvernement. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la bande-annonce du régime d'un seul homme.
Résistance et liberté. Les prix Montluc récompensent chaque année des œuvres artistiques qui valorisent les valeurs de résistance et de liberté. Ils viennent d'être décernés en littérature avec l'écrivain kurde Selahattin Demirtas qui a été récompensé pour son recueil de nouvelles titré L'Aurore. Défenseur de la démocratie, bête noire d'Erdogan, Selahattin Demirtas est actuellement emprisonné en Turquie. Côté cinéma, c'est la cinéaste syrienne Ala Al-Abdallah qui a été distinguée, tandis qu'une mention spéciale a été donnée à Robert Badinter. Et mercredi de beauté ciné au taquet, car aujourd'hui dans les salles obscures on se branche sur Attila Battle Angel, l'adaptation cyberpunk et réussie du manga Gunm par Robert Rodriguez. On succombe au vice d'Adam McKay, biopic acerbe de l'ancien vice-président américain Dick Cheney. Et sinon on tombe sous le charme des deux fils de Félix Moati, le brillant presque trentenaire qui passe derrière la caméra pour la première fois. Et ça, on aime ça, ça. Rachida Brakni, marraine du 20e anniversaire du Printemps des Poètes, invitée de Boomerang ce matin pour parler de poésie et de beauté, puisque c'en est le thème cette année. Quand est-ce que vous avez découvert, vous, les pouvoirs de la poésie, tiens?
Oh, il y a... Je ne saurais pas. Enfin, si, c'est pas vrai. J'ai le souvenir... En fait, je dois beaucoup à la poésie. J'ai le souvenir que, petite fille, je devais être en CE2 ou CM1. Non, CM1. Et on devait apprendre une poésie, c'était un poème de Prévert. Et je pense que je suis devenue comédienne, quand même, malgré tout, grâce à la poésie, parce que le maître m'avait fait venir au tableau pour pour déclamer un poème de Prévert. Et j'y avais mis tout mon cœur, mais un certain nombre de personnes dans la classe s'étaient moquées de moi. Et j'avais totalement perdu mes moyens. Et je n'oublierai jamais les mots de ce maître qui m'accompagne toujours. Et je, voilà, c'est...
Parce qu'il vous a dit quoi ?
Ben, il m'a dit des choses très très belles sur le fait que, encore une fois, cette histoire de responsabilité, que j'avais pris en charge ce texte et que je n'avais pas à en rougir. Et que je devais passer outre les moqueries de mes camarades parce que c'est les mots qui m'aideraient à m'en sortir, à faire de moi quelqu'un. Et ces mots m'ont accompagné.
Il faut bien qu'il y ait quelque chose de précieux, effectivement, dans la parole poétique, pour que d'une certaine façon, elle parvienne à créer du sens là où aujourd'hui, celle du philosophe, de l'expert, de l'homme politique échoue.
Bien sûr. Mais je pense qu'on a plus que jamais, on a besoin de poètes. Et d'ailleurs, pas qu'aujourd'hui, on le voit à travers l'histoire. Là, en relisant tout un tas de poètes, je lisais un très très beau texte de Victor Hugo qui dans un manifeste à la poésie et de son amour de la poésie à travers la nature. Mmh. Et je trouve que c'est, par rapport à l'écologie, en tout cas, moi, ça crée des passerelles incroyables. Et je trouve que la poésie, c'est ce qui permet de créer des passerelles entre justement le politique, les études sociales, le citoyen. Ça permet tout d'un coup aussi, je pense, de prendre un peu de hauteur et sortir un peu de tous ces discours dont on peut plus. Enfin, moi personnellement, j'en peux plus.
Bien, discours figé.
Exactement, totalement figé. Et puis, non seulement il est figé, mais c'est quelque chose qui ne laisse pas entrevoir un champ des possibles.
Oui.
Et je trouve que la poésie permet ça.
La parole d'une femme ou d'un homme politique est-elle jamais parvenue, ne serait-ce qu'une seule fois, à vous convaincre, vous, Rachida Brakni ?
Malheureusement, à de très rares occasions. Non, à de très rares occasions, et puis je...
Comment vous l'expliquez ? Parce que c'est une parole
figée, je le disais, fixe, qui semble détenir une vérité,
non seulement
quand la poésie
ça,
justement s'en échappe,
et
plurielle.
Exactement, et puis aussi avec des éléments de langage. Et la poésie, justement, les poètes ne sont pas dans des éléments de langage. Et c'est ça qui est intéressant. Et malheureusement, aujourd'hui, enfin moi, le constat que j'en fais, c'est que la politique non seulement est dans les éléments de langage, et puis est dans une vue à court terme. C'est ça qui est intéressant aussi avec la poésie, c'est aussi, d'un point de vue philosophique, c'est penser le monde, mais aussi avoir, enfin voilà, ne pas voir par le petit bout de la lorgnette, et avoir comme ça en conscience tout un tas de choses qui nous échappent. C'est ça qui m'intéresse, c'est que dans la poésie, tout d'un coup, ça va mettre un coup de projecteur sur quelque chose que je ne soupçonnais absolument pas. Donc ça va éveiller chez moi, ça va ouvrir des fenêtres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a envie d'ouvrir des fenêtres. Et on aimerait aussi que les hommes politiques nous ouvrent des fenêtres.
J'aimerais que vous nous lisiez un autre texte, Rachida, l'extrait d'un texte du poète Adonis, paru il y a 20 ans dans la revue Mémoire du 21e siècle et qu'on peut retrouver dans l'anthologie Manifeste publiée aux éditions Poésis.
La poésie est plus que symbole d'ouverture, plus que confiance en l'autre. Elle est le territoire sans mesure de l'ouverture. Elle est la demeure de l'autre. En cela, elle transcende aussi bien le racisme que le concept de tolérance, concept qui ne s'est jamais affranchi du nombre d'inégalités, voire de condescendance. Je te tolère, donc j'ai raison. Par générosité pure, je consens à te laisser t'exprimer, toi qui as tort. La poésie, quant à elle, ouvre un espace où personne n'incarne la vérité, où personne ne se veut dépositaire d'une loi indiscutable. La poésie se tient à distance de l'idée de tolérance pour rejoindre la nature originelle de l'homme, faite d'égalité et d'unité. Tournés vers l'avenir, les êtres humains participent de cette quête de vérité, de cette quête qui exige le dévoilement intérieur et incite à la création perpétuelle. C'est par son œuvre seule que l'homme devient le créateur de son identité. La question dans cet horizon n'est plus de savoir comment voir ou définir le rôle de la poésie dans la vie, mais plutôt comment voir et définir celui de l'homme et de la société dans la transformation de la vie en poésie. La poésie a joué magnifiquement son rôle. Elle a créé des manières de voir l'univers en sa pleine fraîcheur et l'existence en sa pleine beauté. La faille dans notre vie moderne est due à notre incompréhension de cette évidence. Comment transformer la vie en poésie? Voilà la question. Et ce n'est plus au poète d'assumer ce rôle, sauf dans le sens qu'il continue, par la force de la création, ce que les grands créateurs du passé ont fondé, à savoir continuer à créer des rapports nouveaux entre langue et existence, ce qui donnerait à notre vie une image plus belle et plus humaine. C'est maintenant la société qui doit assumer la responsabilité de créer les moyens qui permettront de diffuser ces rapports, de les transformer en pain quotidien, de déployer et d'étendre la vision poétique aux autres visions qui dirigent le monde actuel, dans les domaines politiques, économiques, scientifiques et intellectuels. Il faut œuvrer pour que la vie humaine, au-delà des races, langues et pays, puisse être vécue comme si elle était poésie. Je forme des vœux pour que ces moments vécus en poésie restent comme le vivant symbole de la poétisation du monde et de l'unité entre les hommes.
La fin de ce texte, Rachida Brakni, c'est comme si ça allait de pair, la poétisation du monde et l'unité entre les hommes.
Bien sûr, je pense que ça va de pair. Enfin, c'est inconcevable qu'on puisse dissocier ces deux idées.
Alors comment transformer la vie en poésie? Transformer la vie en poésie, pour vous, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Transformer la vie en poésie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout est une histoire de perception, non seulement. Et qu'est-ce que je fais de cette perception? Comment je la transforme en poésie? Quel regard je porte sur les autres? Et comment j'essaie de quelque chose qui pourrait paraître absolument microscopique, comment j'essaie de mettre un miroir grossissant, mais pas sur quelque chose qui crisperait, au contraire, sur quelque chose qui amènerait du regard, qui amènerait du lien entre les individus. C'est encore cette histoire de passerelle, c'est chercher sans cesse à créer des passerelles.
Est-ce que ce serait pas la mission de l'artiste?
Bien sûr. Ah mais ça, alors ça oui, je partage totalement cette idée.
Qui serait en première ligne de ce combat pour poétiser le monde, Rachida Brakni ?
Bien sûr. Et puis je pense que c'est la mission première et majeure de l'artiste, que ce soit dans l'art contemporain, dans la peinture, la photographie, le cinéma, un acteur qui endosse aussi un rôle, un réalisateur qui décide de raconter, qui a la nécessité de raconter une histoire. Bien sûr que c'est le rôle des artistes.
Bon, on va continuer ensemble à essayer de poétiser le monde alors, puisque j'ai devant moi une artiste. Et qui mieux que Tom Waits pour nous aider dans cette mission. Tom Waits qui chantait le printemps qu'on ne saurait retenir. You can never hold back spring. France Inter, Rachida Brakni, c'est le printemps.
You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb. Spring ahead or fall behind. Winter dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring. So close.
Non, parce qu'avec elle, c'est une certitude, peu importe la saison, peu importe le lieu, peu importe les circonstances, elle porte quelque chose de puissamment solaire qui vous fait oublier à peu près tout ce qui pouvait vous préoccuper jusqu'alors. Est-ce que c'est son regard qui a cette forme de fermeté, de curiosité? Est-ce que c'est son sourire franc qui lui mange le visage? Cette manière d'être là, en fait, pleinement, entièrement, poétiquement, tout en noir ce matin, la longue dame brune, Rachida Brakni, invitée de Boomerang, pour ouvrir, avec quelques semaines d'avance, le 20e anniversaire du Printemps des Poètes. Parler de poésie, c'est parler de mots. Et je sais que les mots ont toujours eu beaucoup d'importance pour vous, et notamment les mots de Robert Badinter, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il vient de recevoir une mention spéciale pour ce prix. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mots à lui qui vous ont tant marqué, Rachida ?
Déjà une conviction, enfin une force... Une force incroyable. Enfin, et je trouve que même dans son écriture, enfin pour avoir lu, je crois tout ce qu'il a écrit, excepté son dernier ouvrage que je vais lire très vite. Mais c'est ça, cette espèce de conviction incroyable qui l'habite, qui l'a animé, son combat contre la peine de mort. Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. Et puis je trouve qu'il y a une espèce de droiture chez cet homme. Et alors, vous parliez de regard. Lui, pour le coup, je trouve qu'il a un regard tellement aiguisé et tellement tranchant, c'est l'épée de la justice. Voilà, il représente pour moi la justice.
Vous parliez de Prévert tout à l'heure, mais c'est grâce à lui aussi, Robert Badinter, indirectement, que vous êtes devenue comédienne,
bien
que
sûr.
Vous avez poussé la porte d'un cours de théâtre.
Oui. Oui, parce que mon modèle étant Robert Badinter, je rêvais d'être une grande pénaliste, voilà, comme lui, et je m'étais dit rien de mieux que le théâtre pour m'apprendre cette aisance, Voilà, avoir moi aussi, connaître de grands moments de joute oratoire.
Et quel lieu est-ce que c'est pour vous justement le théâtre, vous qui serez ce soir sur la scène du théâtre du Rond-Point avec J'ai pris mon père sur mes épaules, la salle de théâtre, Rachida Brakni?
Mais c'est, je pense qu'il y a, une certaine similitude avec, malgré tout, le tribunal, même si au théâtre, heureusement, personne n'est là pour être jugé. Mais j'ai toujours considéré que être acteur, enfin, après, tout dépend des choix qu'on fait, mais en l'occurrence, la pièce que je commence ce soir à Paris, J'ai pris mon père sur mes épaules, qui est une adaptation de l'Énéide et qui parle du monde d'aujourd'hui. C'est une responsabilité pour moi d'endosser ce personnage et de dire les mots d'Anissa et de rendre compte du monde dans lequel on vit. Sans aucun didactisme, hein, d'ailleurs. Hein.
Mais sous forme de dialogue.
Oui, sous forme de dialogue. Mais je pense malgré tout que c'est une responsabilité. Alors après, toute proportion gardée, parce que tout ça ne reste que du théâtre, que de l'art. Mais malgré tout, c'est une responsabilité. J'ai toujours considéré aussi que je faisais du théâtre pour jouer pour tout le monde. Oui. Vous savez, c'est un peu comme l'établi de Linhart. Hein. Ces gens qui infiltraient les usines pour apporter une parole intellectuelle, pour amener les ouvriers à se positionner, à se politiser. Et ben, je considère mon métier d'actrice un peu comme l'établi.
C'est justement un texte sur le dialogue, sur la relation à l'autre, sur la relation au monde que vous avez choisi de nous lire ce matin. Un texte de Hannah Arendt.
Oui.
Extrait de Vie politique.
Et qui résonne, je trouve, incroyablement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Nous avons coutume aujourd'hui de ne voir dans l'amitié qu'un phénomène de l'intimité, où les amis s'ouvrent leur âme sans tenir compte du monde et de ses exigences. Ainsi nous est-il difficile de comprendre l'importance politique de l'amitié. Lorsque, par exemple, nous lisons chez Aristote que la philia, l'amitié entre citoyens, est l'une des conditions fondamentales du bien-être commun, nous avons tendance à croire qu'il parle seulement de l'absence de factions et de guerres civiles au sein de la cité. Mais pour les Grecs, l'essence de l'amitié consistait dans le discours. Ils soutenaient que seul un parler ensemble, constant, unissait les citoyens en une polis. Avec le dialogue se manifeste l'importance politique de l'amitié et de son humanité propre. Le dialogue se soucie du monde commun qui reste inhumain en un sens littéral tant que les hommes n'en débattent pas constamment. Car le monde n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes, et il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue. Quelque intensément que les choses du monde nous affectent, quelque profondément qu'elles puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne deviennent humaines pour nous qu'au moment où nous pouvons en débattre avec nos semblables. Tout ce qui ne peut devenir objet de dialogue peut bien être sublime, horrible ou mystérieux, voire trouver voie humaine à travers laquelle résonner dans le monde, mais ce n'est pas vraiment humain. Nous humanisons ce qui se passe dans le monde en nous parlant, et dans ce parler, nous apprenons à être humains. Cette humanité qui se réalise dans les conversations de l'amitié, les Grecs l'appelaient philanthropia, amour de l'homme, parce qu'elle se manifeste en une disposition à partager le monde avec d'autres hommes.
En quoi parler ensemble nous rend-il plus humains, pour vous, Rachida ?
Ça nous rend... Parler ensemble, et aussi, je crois que c'est important, s'écouter, savoir s'écouter. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on a perdu aussi cette capacité à pouvoir s'écouter et à tronquer une idée, une parole, la réduire. Ça va aussi avec l'idée de ce monde dans lequel nous vivons, où tout va trop vite, où on réduit tout à quelques signets. Écouter une pensée et la laisser s'exprimer, s'étendre, et se déployer, et pour pouvoir se répondre. Mais pour pouvoir se répondre, il faut savoir s'écouter.
En fait, j'ai l'impression que ce dont vous nous parlez à travers ce texte, et peut-être depuis le début de cette émission, c'est de la difficulté à dire « nous » aujourd'hui. Sujet qu'on abordait la semaine dernière avec la poétesse et romancière Jeanne Benhammer. Oui. Pourquoi c'est si difficile pour vous de dire « nous » ?
Ben, aujourd'hui, c'est devenu difficile, hein, et d'ailleurs, elle en parlait très bien. Je l'avais entendu, et je pense que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jeu, plus jeu, plus jeu, plus oui. jeu. Et parce qu'on est encore une fois dans cette chose qu'on compartimente. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est c'est plutôt qu'est-ce qu'on décide de garder de ça? Est-ce que on décide de mettre en exergue ce qui nous sépare ou ce qui fait encore corps entre nous? Et c'est en ça que ce texte d'Anna Arendt m'intéresse, et c'est en ça aussi que j'ai dit oui à cette pièce, j'ai pris mon père sur mes épaules. C'est que on voit une communauté de gens qui n'ont plus grand-chose, et qu'est-ce qui fait encore corps entre ces êtres humains quand tout autour d'eux, tout s'écroule autour d'eux? Et je pense que c'est vraiment la question fondamentale aujourd'hui, on le voit aussi à travers la manifestation des Gilets jaunes, c'est tout d'un coup aussi changer voilà, sa perception, son regard, et se dire aujourd'hui, voilà, on ne fait que le constat et on ne comptabilise que ce qui nous différencie ou nous sépare. Est-ce que ce serait pas plus intéressant, au contraire, de réfléchir et de faire corps autour d'une idée qui nous rassemble, et ensuite on pourra parler de nos différences.
Merci infiniment, Rachida Brakni, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le Printemps des Poètes, c'est du 9 au 22 mars, et que vous serez notamment le 9 mars sur la scène du Théâtre du Rond-Point, compagnie d'Emmanuel Berco, Stéphanie Baudet et Eric Cantona, pour le célébrer comme il se doit. La beauté, éphéméride poétique pour chanter la vie, c'est l'anthologie officielle du Printemps des Poètes par Bruno Doucet et Thierry Renard. Vous pouvez la trouver en librairie et en bibliothèque. Je précise par ailleurs que j'ai pris mon père sur mes épaules. La pièce d'Arnaud Meunier dans laquelle vous jouez sera dès ce soir au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 mars. Tout de suite, les Média, Sonia De Villers, juste après ça.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche, je veux pas laisser ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu amoureux, qui n'ose guère ce regard. Nul ne voit le grand soleil qui fait briller dès le réveil ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu amoureux, qui n'ose guère.
Bleu, Karen Anne sur France Inter, et tout de suite l'heure des médias, Sonia De Villers, l'instant M.
Salut Augustin, à demain.
À demain.